Le message que vous allez suivre est un enseignement du révérend Raoul Wafo. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée.
Nous te rendons grâce, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Matthieu, pendant qu'on reste debout. Le livre de Matthieu, chapitre 22. Le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Ce matin, nous allons commencer notre série que j'ai intitulée « Une voix plus excellente ». Dans le but de ce message, c'est de nous montrer le meilleur chemin. Celui par lequel nous devons passer. Quelle que soit la chose que nous voulons obtenir de Dieu, cette voie est la voie excellente. La voie où nous avons la garantie que l'issue, ce n'est pas la déception, mais bien au contraire. L'issue, c'est la victoire. L'issue, c'est le succès. L'issue, c'est l'abondance. L'issue, c'est la provision. C'est la sécurité que nous avons par l'Éternel qui nous a aimés et que nous aimons. La voie la plus excellente. On va lire ensemble ces versets. On y va, 1, 2, 3. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Père, je veux te rendre grâce pour ta parole agréable et merveilleuse. Merci pour la capacité que tu accordes à toute personne qui m'écoute en ce moment, que ce soit en ce lieu, que ce soit dans sa chambre, dans sa voiture, dans son bureau. Père, je prie que le Saint-Esprit donne à cette personne la capacité d'entendre ta parole et surtout de la comprendre. Et que dans l'homme intérieur, se crée l'illumination par la puissance de ton esprit au nom suprême de Jésus. Change radicalement notre système de pensée et donne-nous à l'intérieur de nos cœurs, par l'enseignement de ta parole, à prendre la résolution de marcher sur la voie excellente, de marcher sur le chemin de l'amour, et Éternel, de nous laisser embraser par ton amour, afin que nous soyons véritablement amoureux de toi. Béni sois-tu, Éternel, pour ta grâce sur ma vie. Ô Dieu, une attente exceptionnelle est placée au-devant de ton trône. Merci pour le revêtement de ton onction sur ma vie. Car seul par toi, je parle, et pour toi, j'enseigne, pour que ton peuple ait le cœur tourné vers son Créateur. Je m'efface afin que toi seul, tu sois vu. Au nom suprême de Jésus, et que quelqu'un dise encore Amen trois fois. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. La Bible nous dit dans ce texte que les pharisiens, voyant que Jésus avait réduit au silence les sadducéens qui avaient interrogé Jésus sur la question de la résurrection, parce que pour eux, la résurrection n'avait aucun sens, parce qu'ils se basaient sur la loi, disons. Que donc, si un homme a eu une femme, ensuite il est mort, et le frère a pris la femme, et puis ensuite le frère du frère, qu'en est-il donc à la résurrection si les gens doivent ressusciter? Comment se fera-t-il donc que qui aura donc la femme de l'autre côté? Et donc Jésus les a réduits au silence. Tellement la réponse était intelligente et sage, basée sur la profondeur de la parole de Dieu. Alors un des pharisiens, voulant montrer qu'il est plus intelligent que les sadducéens et voulant jouer l'important, a donc affronté le Seigneur avec une question pour le confronter et l'éprouver. Et sa question était simple. Maître, de tous les commandements de la loi, quel est donc le plus grand? Parce que, selon la loi, celui qui avait enfreint un seul commandement de la loi se rendait coupable de toute la loi. Donc, selon la loi, il n'existait aucun commandement qui soit plus grand que l'autre. Mais en posant cette question, il donne l'opportunité à Jésus d'apporter l'enseignement qui, pour moi, est l'enseignement le plus profond de toute la parole. Il dit, voici donc le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il dit ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second commandement qui lui est semblable. Et il ajoute, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En quelque sorte, tout ce qui se fait sous le ciel et qui se fera sous le ciel doit prendre sa racine et ses fondements de ces deux commandements de la loi. C'est pourquoi il parle, n'est-ce pas, de la loi et des prophètes. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Quelle que soit la sphère de responsabilité que vous avez, vous voulez réussir selon Dieu, basez-vous sur ces deux commandements de la loi. Un, aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Deux, aimez son prochain comme soi-même. Dites-moi, si un président de la République aimait vraiment Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et aimait son semblable comme lui-même, vous croyez que le développement ne passera pas par son leadership? Si. Le vrai problème, c'est que nous avons des personnes en sphère de responsabilité qui ne marchent pas et n'opèrent pas selon la loi de l'amour. Quand l'amour est le fondement d'une action, quand l'amour est la base, c'est clair que le succès devient de plus en plus éclatant. Donc, il nous dit que nous soyons ministres de Dieu, c'est-à-dire qu'on soit dans le sacerdoce, que je sois apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, que je sois homme d'affaires, que je sois politicien, que je sois artiste, que je sois sportif, quel que soit ce que je fais, je devrais aller sur le fondement de cette loi souveraine qui est la loi de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer son prochain comme soi-même. Donc, l'amour est indispensable pour notre épanouissement sur la terre. Je vous fais remarquer que celui qui nous donne ce commandement suprême est celui qui nous a créés et qui nous connaît mieux que quiconque. Bien-aimés, vous voulez vivre une vie épanouie? Embrassez le chemin de l'amour. Votre vie connaîtra un rayonnement sans pareil. La raison pour laquelle même beaucoup de personnes ne réussissent pas en affaires, c'est que l'amour n'est pas la base. La cupidité est la démonstration de l'absence de l'amour de son prochain. Je n'en parle pas en profondeur dans ce message. Donc Dieu nous dit, aime le Seigneur ton Dieu. Alors qu'est-ce que c'est aimer? Quand le Seigneur nous dit de l'aimer, qu'est-ce que c'est aimer? Si nous devons tomber amoureux de Dieu, nous devons comprendre ce que c'est aimer. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est d'avoir de l'affection pour quelqu'un. Donc, je m'affectionne. Je m'attache. J'aime la personne. J'aime sa présence. J'aime ce qu'il fait. J'aime m'impliquer dans ce que la personne fait. J'aime la compagnie de la personne. C'est ça, avoir de l'affection. J'affectionne la personne. Et en plus de l'affection, il y a l'amitié. Avoir de l'amitié pour la personne. Vous voyez? Donc, même dans un couple où il y a affection sans amitié, plus tard, il y a démonstration de l'absence d'affection. Parce que l'affection engendre l'amitié. La personne devient un ami. Jésus a dit, Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Dieu veut une relation d'amitié avec toi. Il veut être ton ami. C'est pour ça qu'il est venu résider dans ton corps. Il dit, ne savez-vous pas que le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Pourquoi? Parce que Dieu veut ton amitié. Quand tu te mets à genoux dans ta chambre et que tu lèves la main vers le ciel, sans casser ton plafond, il entre, il pénètre et il a une relation d'amitié avec toi. Et il tient à cette amitié. Alléluia. Il faut être ami de Dieu. Quand tu es l'ami de Dieu, il te chuchote des choses à l'oreille. Il dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Donc quand on aime Dieu véritablement, quand on est amoureux de Dieu, on a des trésors de Dieu qui nous chuchotent à l'oreille à cause de cet amour. Puisse l'Éternel t'aider à bâtir une vraie relation d'amitié. Et vous savez, la religion ne comprend pas l'amitié. La religion voit Dieu comme étant Dieu trop lointain. Alors qu'en fait, la vraie chrétienté, la vraie foi, la vraie relation d'alliance nous ramène Dieu à côté. Ça devient un ami. Quand tu deviens l'ami de Dieu, tu te rends compte que Dieu est plus proche de toi que ton propre vêtement. Il est plus proche de toi que ta femme qui dort sur le lit la nuit ou ton mari. Dieu devient un ami. Alléluia. Et c'est là que tu te rends compte, ok, que tu es dans le naturel. Mais en fait, tu n'es plus dans le naturel simplement parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Donc cet amour de Dieu te transporte dans l'univers de la vraie relation, de la vraie intimité, de la vraie profondeur, n'est-ce pas, de la vie avec Dieu. Oh, combien de personnes à l'église sont superficielles, parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, annoncent aux autres, je vais à l'église, alors qu'en fait, ils n'ont jamais eu d'intimité avec le Seigneur. Tu es misérable, bien-aimé, si tu viens à l'église, si tu vas tous les jours, n'est-ce pas, dans les assemblées, que tu ne connais pas le Dieu dont tu parles. Non. Il te faut une relation d'amitié. L'amitié est incontournable, n'est-ce pas, dans notre marche avec Dieu pour que, on ne peut pas dire qu'on est amoureux de Dieu quand Dieu n'est pas notre ami. Et je vais plus loin. Quand on parle de l'amour de Dieu, quand on parle même de l'amour, on parle de la tendresse ou de la passion. Alors vous savez, la tendresse. Quelqu'un d'entre vous, un jour, a-t-il déjà été dans un problème? Et que tout le monde semble t'accuser. Personne ne comprend ce que tu traverses. Tout le monde te jette la pierre. Et là, Dieu arrive dans son élan de tendresse, dans son vent d'amour, et il souffle dans ta chambre en te disant, même s'ils ne te comprennent pas, moi je connais ton cœur et je connais la motivation qui t'a poussé à l'action. Oh, la tendresse de l'Éternel. Puisse l'Éternel t'aider à expérimenter sa tendresse. Des gens comme nous, nous avons connu la tendresse avec le Seigneur. Mon père ne m'a jamais dit, oh mon fils, je t'aime. Ma mère ne m'a pas toujours donné des mots doux. C'est, la tendresse, je l'ai connue quand mon cœur a été conquis par mon maître. Il a commencé à me chuchoter à l'oreille comment est-ce que j'étais précieux. Il a commencé à me dire comment est-ce que j'étais un sacerdoce royal, une nation sainte. Quand je lisais la parole, j'entendais Jésus me parler directement de sa parole. Et je pleurais car la tendresse de l'Éternel est au-dessus de toute forme de tendresse. Bien-aimé, quelle que soit notre forme, quelle que soit notre force, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre nationalité, nous avons besoin de tendresse. L'homme a été créé avec grand H pour pouvoir vivre des moments de tendresse. La tendresse. Je ne parle pas d'une tendresse qu'une femme t'accorde parce qu'elle va vider ta poche. Non, je parle de la tendresse de l'Éternel. Pas une tendresse que tu vas donner à une femme simplement parce que tu sais ce que tu veux. Je parle d'une tendresse, la vraie tendresse. Une tendresse éternelle, une tendresse inconditionnelle. Ce n'est pas une tendresse qu'on t'accorde parce que tu as fait un présent, mais une tendresse qu'on t'accorde parce que tu es ce que tu es. Une tendresse qu'on te donne même quand tu passes dans des moments difficiles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur? Oh, que Dieu te permette de connaître cet amour. Mais je parle de tomber amoureux, donc ce n'est pas simplement aimer, mais c'est aimer dans la dimension la plus élevée. Parler de la passion dans l'amour. Car l'amour t'amène sur sa cime, car l'amour te conduit sur la hauteur de sa montagne. Alors, on appelle ça la passion. À partir de cet instant, tu deviens comme fou, comme si tu as perdu tes sens. Vous voyez, c'est là où vous voyez une femme qui dit à ses parents, dans tous les cas, si vous ne voulez pas de cet homme, moi je m'en vais avec lui. La mère commence à dire, non, c'est moi qui t'ai porté, tu as uriné sur moi. Le père commence à parler, dit, mesdames et messieurs, je voudrais bien vous annoncer, qu'il soit chinois ou hindou, je m'en fous, je m'en vais avec lui. Quand l'amour de Dieu consume le cœur d'un être, ça dépasse cet amour naturel. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, demandez aux femmes, elles vont vous dire, Quand vous voyez une femme ici, elle vous dit qu'elle va se marier à Singapour. Et elle va au milieu des Singapouriens. D'ailleurs, tu vois une Ivoirienne qui est à Singapour. Isolée dans un coffre, vous dites non, non, l'amour peut faire des choses. Je vous garantis, l'amour peut faire des choses. Vous vous imaginez qu'on arrive dans une famille où les gens disent, elle est là au milieu, mais Joe, elle sait qu'elle aime son gars. Et que donc, parlez-vous, elle n'a rien à foutre. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle aime son gars. C'est tout. Et tant qu'il y a cet amour, il y a la sécurité. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent même, on peut être en train de dire, tu nous as amené quelle forme? C'est quel village? Elle reste à mon chef. Et puis elle se tourne, chérie. Ben, là, elle, vous savez, mais quand maintenant le gars lui-même commence à retrouver le langage des Singapouriens, là, elle dit, je prends mon passeport, je rentre à Abidjan. Parce que la seule chose qui amène la sécurité dans une relation, c'est se sentir aimé. Et donc, vous savez, bien au-delà, bien aimé, c'est vrai que nous devons ressentir l'amour de Dieu. D'ailleurs, il nous l'a prouvé. Il nous l'a prouvé. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien aimé, Dieu t'a prouvé son amour. C'est pour ça qu'il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Si tu n'étais pas aimé par Dieu, il ne te donnerait jamais son image. Si Dieu ne t'aimait pas, il ne t'aurait jamais amené à ressembler à lui-même. Il t'aurait donné à ressembler à un singe. Ok? Alors là, la théorie de Darby aurait été vraie. Mais non, non. Il t'a donné de ressembler à qui? À lui-même. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et même quand tu as péché et que tu as été séparé de lui par la tromperie de Satan. Ok? Dieu t'a restauré. Donc Darwin n'a pas eu raison. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés à son image. C'est vrai que humainement, ça semble ne pas être compréhensible. Quand Dieu si grand te donne ton image, son image, te donne sa ressemblance. Et c'est pour ça que David, comprenant la profondeur de cet amour, va dire, oh Dieu, qui suis-je? Moi, pour que tu me fasses tant confiance. Il dit, tu m'as créé de peu inférieur à toi. Et tu m'as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Non simplement tu m'as donné ton image, mais par amour tu m'as confié la gestion de la terre. Tu as fait de ton trône, de l'état de le ciel, ton trône, mais de la terre ton marchepied. Et tu as donné la terre comme héritage au Fils de l'homme. Il comprenait que ça, il n'y avait que l'amour qui pouvait amener Dieu à agir autant. Vous voyez? Parce que quand l'amour est parfait, laissez-moi vous dire quelque chose, l'amour ne soupçonne pas un seul instant que les choses vont tourner mal. Et même, l'amour prend le risque de faire confiance avant que le mal ne tourne, arrive. Donc, un homme qui va à la mairie et qui dit, ok, dans tous les cas, on ne sait jamais. Séparation de biens. Si le but, c'est on ne sait jamais, c'est que ton amour n'est pas parfait. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand on aime vraiment, on n'a pas peur. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout, supporte tout, endure tout. Donc, quand il y a un soupçon, l'amour n'est pas à sa perfection. Oui. Donc vous devez comprendre ça. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire le choix de l'amour. Choisis d'aimer. J'aime parce que je choisis. Je choisis l'amour. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, que Dieu a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, l'amour de Dieu est dans ton cœur. T'es né de nouveau? Lève ta main, je veux voir. T'es né de nouveau? Lève ta main. Écoute-moi bien. Si tu es né de nouveau, l'amour de Dieu est déjà dans ton cœur. D'accord? La Bible ne ment pas. Dieu l'a répandu dans ton cœur par son esprit. Tu as déjà l'amour de Dieu en toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le choix de marcher en mode amour. Tu dois cliquer sur le mode amour. C'est mon choix. D'accord? Donc, même avec Dieu, tu dois cliquer « Je choisis d'aimer Dieu ». Aimer Dieu est un choix qu'on fait. Je choisis de l'aimer. Je veux l'aimer. Et tu peux prier en disant « Seigneur, enseigne-moi à t'aimer davantage ». Ça, c'est ma prière. Éternel, aide-moi à grandir dans l'amour que j'ai pour toi. Père, je veux t'aimer demain plus qu'aujourd'hui. Oh Dieu, enseigne-moi tes voies. Montre-moi le chemin qui m'amène dans les profondeurs de ton amour. Je veux aller à la découverte éternelle de cette vie d'amour avec toi, mon Créateur. Vous voyez? Donc, vous pouvez choisir de marcher dans l'amour. C'est un choix qu'on fait. Je prends le choix de marcher dans l'amour. C'est un choix que j'ai fait. Je choisis de marcher dans l'amour. C'est comme un homme et une femme. Quand vous allez à la mairie et que vous faites des vœux, quand on dit pour le meilleur, pour le pire, en fait, c'est une déclaration d'amour terrible. Ça veut dire que quel que soit ce que la femme fait, je l'aime. La déclaration d'amour lors du mariage veut dire que si je rentre un jour à la maison et que par accident, je trouve ma femme dans mon lit avec un autre homme, je l'ai pardonné d'avance. Merci pour ce silence. Est-ce que vous me comprenez? Car la Bible dit l'amour pardonne tout. Laissez-moi vous dire une chose, encore plus profonde, parce qu'à vous je peux parler. Laissez-moi vous dire une chose, vous savez que la loi voile l'amour, seule la grâce révèle l'amour. Moïse est venu avec la loi, Jésus est venu avec la grâce. La loi t'amène à mériter les choses de Dieu par tes actions. Alors que la grâce te donne d'avoir accès à l'amour de Dieu juste par ta foi et non par tes œuvres. Et c'est pour ça que nous devons comprendre la dimension de l'amour qui va au-delà de toute la loi. Jésus a accompli la loi pour que nous vivons par la grâce. D'accord? Donc celui qui est focalisé sur la loi ne peut pas connaître la perfection de l'amour. La femme adultère qui était en train d'être lapidée a vu ce que c'est que l'amour. Bien qu'elle ait fauté, le Seigneur a dit, là, vous n'allez pas lapider cette femme. Que celui parmi vous qui n'a pas encore péché, jette sur elle la pierre et personne ne l'a fait. Et cette femme a connu l'amour de Dieu. Quand vous connaissez l'amour de Dieu vous préserve. Même dans l'erreur, l'amour de Dieu n'est jamais retiré. C'est le diable qui vous fait croire, quand tu as commis un péché, Dieu va te tuer, il va te lapider. Non, la meilleure personne à laquelle il faut courir après une faute, c'est jamais le diable, c'est toujours Dieu. Parce qu'il est la seule personne capable de te comprendre et de te pardonner véritablement. Donc la culpabilité est une arme terrible qui te sort du chemin de l'amour et t'empêche de jouir du meilleur de Dieu pour ta vie. D'ailleurs, laissez-moi aller dans une autre profondeur. Dieu, dans sa préséance, a voulu que tu puisses connaître la manifestation de son amour et en avoir une preuve par la faute qu'Adam a commise. Car si Adam n'avait jamais commis une faute, on n'aurait jamais eu la preuve que Dieu nous aime. Bien-aimé, certains d'entre vous vous disent, oh j'aime mon pasteur, oh j'aime ceci. Mais écoutez-moi bien, le jour où la faute arrive, c'est là où vous connaissez ceux qui vous aiment ou pas. Ceux qui vous aiment parce que vous êtes parfait, en fait, ce n'est pas celui qui vous aime. Il vous apprécie peut-être. Il vous admire peut-être. Mais aimer, c'est autre chose. Vous me comprenez? Aimer va plus loin que ça. Aimer cherche l'opportunité pour apporter quelque chose et non en tirer. Il y a des gens qui t'aiment parce qu'ils peuvent tirer quelque chose de toi. Il y a des gens qui sont à tes côtés parce qu'ils veulent bénéficier de ce que tu es. Combien de personnes ici à l'église, si Dieu vous dit que vous allez mourir dans 2 jours, qui de vous allez continuer de dire, Seigneur, malgré ça, je t'aime quand même, je veux rester avec toi. Si Dieu dit, par exemple, je ne ferai rien pour toi, est-ce que tu seras encore attaché à lui? Heureusement qu'il ne dira jamais ça. Mais est-ce qu'on est dans le royaume à cause des choses qu'on obtient de Dieu? Oh Seigneur, donne-moi un peu d'argent. Oh Seigneur, vous savez que quand on fait des prières d'égoïsme total, hein, vous voyez les robots, amen, 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 hein, que tes ennemis meurent, amen. Voilà, les. Vous voyez, et ça, c'est les prières de ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Je vais même plus loin. Quand vous connaissez Dieu, il y a des prières que vous ne faites plus. Je ne prie pas pour dire, oh Seigneur, je sais que le diable, bien-aimé, j'ai tellement la révélation de l'amour de Dieu et de là où Dieu m'a placé qu'il y a des choses pour lesquelles je lève juste ma main vers le ciel. Et je dis, Père, je te loue et je te rends grâce de ce que tu m'as accordé ces choses. Vous savez, si, comme Dieu me disait jeudi soir, vous priez étant dans ma maison, pour demander que je vous protège, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'amour que j'ai pour vous. Oh Seigneur, protège-moi. Oh Seigneur, que le diable ne me touche pas. Oh Seigneur, non. Non. Parce que si tu connais la dimension de l'amour de Dieu, le prix qu'il a payé, tu ne vas pas prier pour que le diable ne te touche pas. Dieu t'a déjà pris pour te mettre dans son royaume, dans un endroit où le diable n'a pas accès et ne peut te toucher. Donc ce qu'il attend de toi, c'est que tu rendes grâce à Dieu pour l'endroit où tu es. Tu ne peux pas passer une demi-heure à prier pour que Dieu te trouve une maison. En fait, ces prières, c'est comme des insultes. C'est pour dire, oh Dieu, toi qui es irresponsable et qui ne connais pas mes besoins. Tu ne vois pas que depuis qu'on se rencontre, je n'ai pas là où dormir. Oh Seigneur, je suis en train de te demander, il faut que tu me trouves une maison maintenant. Et il dit, si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ont de quoi manger à plus forte raison. À plus forte raison, bien-aimé. Quand tu comprends certaines choses de Dieu, Quand tu as accès à la dimension de l'amour de Dieu, je te garantis que tu es dans le repos. Ah non, pasteur, tu ne connais pas mon problème, tu ne sais pas, mon mari est un boxeur. Je vais te dire une chose, dis à ton mari qui est un boxeur que Dieu est l'auteur du souffle. Tu n'as pas vu quelqu'un qui veut boxer comme ça et puis la main se bloque? Ah, fais attention, l'Éternel est fort. L'Éternel est grand et l'Éternel est puissant. Il faut simplement connaître son amour. Le problème, c'est que, vous voyez, j'ai vu avec le temps qu'il y a, beaucoup de raisons pour lesquelles les gens peuvent tomber amoureux ou tomber amoureuses. Et généralement, quand un homme a une qualité et qu'une femme est à côté de lui, avec le temps, l'homme sublime la femme. Donc la femme regarde l'homme et elle découvre des facettes cachées de cette personne et elle admire au fur et à mesure. Là, ça n'a pas été en leur. Mais il y a des hommes, quand vous les rencontrez, ils ont comme un truc autour qui vous attire. Mais dès que vous entrez dans ces 5-50, vous pouvez vomir. Parce que vous découvrez que vous avez mis les pieds dans la boue. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et les hommes le savent. C'est pour ça que dans la technique de la drague, entre guillemets, c'est la technique du leur. Je présente ce que je ne suis pas pour obtenir ce que je veux. Je m'en fous de ce que ton cœur va ressentir après. Je suis parti. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, je vais vous dire une chose. Je sais de quoi. D'ailleurs, je vous pose une question. Quels sont ceux dans cette salle, sincèrement, qui sont déjà tombés amoureux une fois? Vous avez ressenti de l'amour. Vous avez dit, vous êtes tombés amoureux une seule fois. Levez la main. Levez bien la main. Levez la main. Voilà. Mais levez, gardez les mains debout parce que je profite pour repérer toutes les personnes. Comment est-ce que tu n'es pas marié et puis tu as la main plus levée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais attends, j'espère que les une fois là, c'était en Égypte. Non, c'était en Égypte, n'est-ce pas? Ah, parce que il ne faut pas se laisser blaguer dans le monde, hein? dans l'église. D'accord? Parce que je vais vous garantir une chose. Priez de tel... Ok? Je vais vous garantir une chose. Vous devez tomber amoureux de la bonne personne. Sinon, vous courez le risque d'avoir le cœur endommagé. Si la personne, vous comprenez de quoi je parle. Donc maintenant, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on tombe amoureux, n'est-ce pas? Généralement, vous entendrez une femme vous dire, oh, j'aime cet homme, il est élégant, il est beau. D'accord? Ça peut être une raison valable. D'accord? Ah, il me plaît, il est beau. Mais si ce n'est que la beauté, je vais te garantir que tu ferais mieux d'avoir les regards sur Dieu. Parce que Dieu est tellement, c'est lui l'auteur de la beauté. Il n'y a pas son pareil en beauté. Quand il a apparu devant Moïse, tellement il était glorieux, qu'il a dit, Moïse, si tu vois mon visage, tu meurs. Tellement je suis éclatant, que ma perfection ne peut pas permettre que ton regard s'attarde longtemps sur moi. Il dit, Moïse, parce que nous avons une relation, je vais te montrer mon derrière. Donc il est passé, c'était juste le derrière qu'il a montré. Quand Moïse l'a regardé et qu'il est descendu, les gens qui ont regardé Moïse ont été étonnés tellement l'éclat de la gloire de Dieu était resté sur le visage de Moïse. Donc si c'est en termes de beauté, nous avons le Dieu le plus merveilleux. Écoutez, vous-même, quand vous voyez les gens qui vont en forêt, ils mettent des petits gris-gris, ils enterrent les calebasses, comment est-ce que ton Dieu peut être transportable par les mains? Il y a des femmes qui aiment les hommes parce qu'ils sont puissants. Mais laisse-moi te dire, si c'est la puissance que tu cherches, mon Dieu, mon Dieu, alléluia. Si c'est la puissance que tu cherches, la Bible dit que quand il parle, c'est comme un tonnerre. Il parle au bruit de sa voix. Même les arbres fléchissent dans sa présence. Il est tellement puissant que même les oiseaux du ciel, le matin, lui donnent la louange. Tellement il est grand, le Dieu que nous servons. Donc si tu cherches la puissance, je t'invite à aimer mon Dieu. Lui, quand il parle, et la Bible dit, il donne des ordres. Sa parole se débrouille pour aller elle-même accomplir ce qu'il a dit. Tellement il est puissant qu'il a des milliers de serviteurs. Il est tellement puissant qu'il a pu me conquérir, moi, dans le Wafo du monde pour m'amener à son service. Quel Dieu merveilleux! Qu'est-ce que tu cherches? Ah, dans cette génération, les gens cherchent l'argent blé. Ah, le blé. Vous voyez, il y a des gens qui ont tellement de problèmes et de faiblesses devant l'argent que vraiment, je dis, on a besoin de prier pour l'Église. Quand les gens, quand ils parlent de leur pognon, quand on parle de l'argent, souvent on met Dieu à côté, mais écoutez, Dieu est l'auteur de l'argent. Donc je vais te dire une chose, ne sois pas ébranlé par un homme qui gare une voiture. Et quand il gare une voiture, tu penses que ta vie prend un autre sens. Non, Celui qui a l'univers, qui crée l'univers entièrement, a garé dans ton cœur. Il est entré pour habiter en toi. Amen. Donc, donne-lui tout l'honneur. Que personne ne t'ébranle. Le roi de l'univers, celui qui possède l'argent et l'or, selon Agé 2, verset 8, il est en toi. Donc, sois sereine. Si c'est l'argent que tu veux, je te garantis qu'il va t'émerveiller. Tu vas courir en route comme ça, le euro, le yen, le dollar commence à te poursuivre. Ce n'est pas une affaire de gloire, non, une fausse gloire, mais une vraie gloire qu'il te donne. Donc Dieu est digne de notre amour. Et ce n'est pas comme un homme qui va se fatiguer en disant non, dans tous les cas, tu sais, aujourd'hui je suis ministre, ça ne correspond plus à mon standing. Dieu, quel que soit le degré d'élévation qu'il prend, il ne va jamais te laisser, il va toujours te faire monter avec lui. Il va t'amener de hauteur en hauteur et sera toujours fier de toi. Donc tu ferais mieux de tomber amoureux de lui, parce qu'il y a une garantie de ce qui ne te décevra jamais. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, je le ferai certainement. Et la Bible dit, c'est un Dieu fidèle. Ça veut dire qu'il ne va jamais te tromper. Tu veux un mari sérieux, attache-toi au Seigneur. Tu veux une personne sérieuse, attache-toi au Seigneur. Il ne te décevra jamais. Et il va plus loin, tellement il est fidèle, qu'il va jusque dans les aspirations de ton âme. Il ne te donne pas un cadeau qu'il trouve au marché. Il te donne le cadeau que ton cœur désire, qui surpasse son imagination. Voilà ce qu'il t'apporte quand il veut te dire bonjour. Quand il te chuchote à l'oreille pour dire comment tu vas, c'est une élévation. Quand il te dit bonjour, c'est une distinction. Quand il te parle, c'est juste pour t'amener dans une dimension encore plus élevée. Le Dieu qu'on sert mérite notre adoration. C'est pour ça que quand Moïse, dans la loi, ne le connaissait pas, celui qui va venir avec la loi, quand il arrive devant le Seigneur, oh, la Bible a crié, oh Dieu. Il dit, qu'est-ce que je dirais donc à ce peuple qui est en esclavage? Je vais les amener à adorer un autre Dieu, à aimer, à tomber d'amoureux de Dieu. Mais dis-moi, Seigneur, tu veux que ce peuple te serve, qu'il t'aime, donne-nous quand même ton nom, qui tu es. Et Dieu se tient dans la gloire et commence à rire. Et dit, Moïse, tu poses une question qui surpasse ta tête. Ta tête ne peut pas comprendre qui je suis, mais je te donne une réponse. Va et dis à ce peuple que celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. En fait, il dit, va et dis à ce peuple que je suis la réponse aux aspirations de vos cœurs. Je suis ce que vous aurez aimé que je sois pour vous. En fait, je suis trois points de suspension comme un chéquier vide. Donc le compte est approvisionné et chacun peut écrire le montant selon ses besoins. Je suis ce Dieu qu'on ne peut pas définir. Quel que soit ce que tu attends de moi, toi-même, rempli et défini, alors tu verras, selon ton attente, je suis. Et qu'est-ce qu'il voulait dire d'autre? Il voulait dire, aussi longtemps que tu me connais, oh, laisse-moi te parler ce matin. Aussi longtemps que tu me connais, écoute-moi bien, oh là 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 là. Aussi longtemps que tu me connais, aussi longtemps que je m'appelle, je suis. Et que tu es en relation avec moi, on ne parlera jamais de toi au passé. Tu n'as pas compris de quoi je parle? On ne parlera jamais de toi au passé. Ça veut dire que quand tu me rencontres, tu ne passes plus jamais. Car celui qui a le Fils a la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc quand tu me rencontres, je te fais passer dans le temps pour que tu deviennes éternel. Je m'appelle Je suis. Et je ne suis pas le Dieu des morts. Quand je te rencontre, tu ne meurs plus. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu ne meurs plus. Même si les gens te pleurent, tu n'es pas mort. Parce que quand je te connais, parce que je m'appelle, je suis, je t'amène à la dimension de l'éternité. Voilà en fait ce que Dieu dit. Je m'appelle, je suis. Je suis un grand Dieu, un admirable Seigneur. Bien-aimé, nous devons apprendre à l'aimer. Maintenant, je vais vous dire une chose, bien-aimé. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que, véritablement, quand vous avez connu Dieu, vous ne passez plus beaucoup votre temps à prier, mais plus votre temps à l'adorer? Parce que la connaissance de Dieu provoque dans ton cœur l'adoration. La raison pour laquelle les gens n'adorent pas, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Plus on le connaît, plus on l'adore. Il dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oh là là, tout ton cœur. Pas une portion de ton cœur, mais toutes les parties de ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire aimer de ton cœur? Aimer Dieu avec tout ce que tu as de précieux. Mes frères, même en offrande, même pour apporter mon offrande à l'église. Souvent, j'allais acheter des enveloppes jusqu'aux Champs-Élysées juste pour donner mon offrande. Tellement je voulais donner à Dieu quelque chose de précieux. Je veux donner à Dieu mon cœur. Ton cœur, c'est ce que tu as de précieux. Donner, servir Dieu avec ton cœur, pas tes lèvres. Il dit, ce peuple me lord des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Si aujourd'hui Dieu te demande quelque chose, qui est à toi, est-ce que tu vas hésiter pour le lui donner? Les gens disent, oh, mais ce gars, il fait la sorcellerie. J'ai dit, c'est au-dessus. Le mot sorcellerie, c'est petit. Ce que je fais, c'est au-dessus de la sorcellerie. Les sorciers sont à une dimension très, très basse. Moi, je suis à une dimension élevée. Parce que j'ai décidé de vibrer sur la voie excellente. Ou en aucun, j'ai dit, en aucun moment, venez prendre tout ce qui est à moi, je suis comme un puits intarissable. Ça va remonter. Pourquoi? Parce que je connais la voie. Ce n'est pas une affaire de « oui, Dieu m'a béni, je suis, hein, tu te prends pour qui tu me connais ». Non, moi, ce n'est pas une affaire de « tu me connais ». Est-ce que tu connais celui que je sers? Ce n'est pas une affaire de « tu me connais », c'est « est-ce que tu le connais ?» Est-ce que tu me comprends? Donc, quand tu connais Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur, tout ce qui est à toi. N'ayez pas peur de donner le meilleur à Dieu. Dieu te demande quelque chose, il est en train de t'éprouver. Dieu ne va jamais prendre ce qui est à toi. Car en aucun moment, il a besoin de ça. Il a besoin de ton cœur. C'est juste le cœur qu'il veut, c'est tout. Beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'ils ont un mauvais cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Où est-ce que ton cœur est? Est-ce que tu es pur dans ce que tu fais? Ah non, le programme était puissant. Pourquoi c'était puissant? Ah, on a eu beaucoup d'argent. Est-ce que le programme est puissant parce qu'on a de l'argent? Pourquoi est-ce que tu fais ce à quoi Dieu t'a appelé? Pour l'argent ou parce que tu l'aimes? Il faut l'aimer de tout ton cœur. Aimer le Seigneur. Ah non, non, on exagère. Dieu aussi, la chose de Dieu, ça demande trop. Bien-aimé, si Dieu voulait facturer la respiration et la vie que tu as, la santé, tu pouvais dire ce que ça coûte. Mais bien-aimé, souvent, vous savez, réfléchissons un tout petit peu. Je ne sais pas combien de temps je n'ai pas été sur un lit d'hôpital. Rien qu'à penser à ça, je dis, Seigneur, je te loue. Je te rends grâce pour la vigueur. À des moments fatigués, mais la grâce de Dieu me renouvelle. Pourquoi? Parce que je sais qui il est. Bien-aimé, il faut l'aimer de tout ton cœur. Et la Bible dit de l'aimer aussi de toute ton âme. Vous voyez, le cœur et l'âme. L'âme, c'est le siège de tes émotions, de tes décisions, de ta volonté. Donc, je dois engager mon âme dans l'amour de Dieu. Il faut discipliner ton âme à aimer Dieu. Quand tu prends une décision, qu'est-ce qui est la base de ta décision? Parce que tu aimes Dieu ou parce que tu veux faire plaisir aux gens? Pendant longtemps, j'ai dit encore longtemps, Dieu m'a enseigné ça et ça m'a délivré. Je ne fais jamais rien parce que j'attends que quelqu'un soit content. Bien-aimé, tu n'es pas content, tant mieux. Aussi longtemps que je suis convaincu d'avoir fait ce que Dieu m'a demandé, c'est l'essentiel. L'apôtre Paul dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, quelle est la raison pour laquelle mon âme se décide? Aimer le Seigneur de toute son âme. Tes sentiments. Aimer le Seigneur. Donc, si tu aimes Dieu de ton âme, tu parles à Dieu en disant, Dieu, je t'aime. Vous ne pouvez pas avoir une relation d'amour avec Dieu et jamais le lui dire. Dites au Seigneur, je t'aime. Lève-toi le matin et tu dis, oh Dieu, je t'aime. Quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Oh, je suis amoureux de toi. Mais je vais t'aimer plus que tout. Plus que ça. Car depuis que je t'aime, je sens ma vie devenir meilleure. Parlez à votre Père, seul dans votre chambre. Dansez au Seigneur, pour le Seigneur. Chantez des cantiques pour votre Dieu. Parce que si vous l'aimez vraiment, votre âme exprime l'amour que vous avez pour lui. Ne soyez pas ces professionnels dans la présence de Dieu. Ah, en tout cas, je suis. Tu vois, on est là, on est très professionnels. David était roi quand il a enlevé ses habits royaux. Parce que son âme avait été embrasée par l'amour de Dieu, il a commencé à danser dans sa présence. Quand vous l'aimez, il n'y a pas de retenue. Vous vous rendez compte qu'il est au-dessus de tout. Et votre cœur s'exprime à l'égard du Dieu que vous aimez. Vous voyez, aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu de toutes vos pensées. Aimez Dieu de toutes vos pensées. Aimez-le de toutes vos pensées. Alors, je touche un point crucial. Vous levez le matin, vous dites, ok, je lis la Bible 15 minutes. Parfait. Je prie 45 minutes, c'est très bien. Vous avez fait une heure, pas mal. Vous sortez, vous partez. Il reste combien d'heures pour la journée? 23 heures. Mais pendant les 23 heures, qu'est-ce que vous faites d'autre? Si vous avez prié une heure et que le diable vous laisse tranquille, et qui sait qu'après les une heure, il vous occupe pour 23 heures, il n'aura pas de problème à vous laisser prier pour une heure. Pas aussi longtemps que les une heure de prière n'ont pas d'impact sur les 23 heures de vie, alors votre heure de prière est stérile. Parce que votre rencontre avec Dieu doit avoir une influence sur vos pensées. Si je rencontre Dieu et que mes pensées ne changent pas, il y a un problème. Donc quand je sors de la prière, mes pensées doivent évoluer vers les choses de Dieu. Il y a des gens, ils prient, et puis ils savent que bon, je prie, mais dès que je termine ici, voilà, le diable m'attend juste à la porte et on va aller ensemble. Non, ce n'est plus la prière, c'est un rituel. Parce que la prière, c'est une communion que tu as avec ton Créateur qui doit avoir un impact sur ton système de pensée, sur ta vie de tous les jours. Donc le temps de prière influence ta vie quotidienne. C'est pour ça qu'on prie avant de sortir. Mais tu es là, 23 heures par jour, tu navigues à gauche, tu penses à la tchèque poisson, tu penses à ci, tu penses à ça, tu es là-bas et tout. Tu es simplement sur les choses de la terre. Jamais ton cœur va dans les affections des choses d'en haut. Tu ne prends même pas la peine de penser, mais à quoi, pourquoi j'ai lu ce verset? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et puis tu dis, Dieu parle-moi. Comment tu veux qu'il te parle alors qu'il y a absence de méditation de sa parole pendant les 23 heures? La Bible dit que tout ce qui est pur, digne de louange, digne vertueux, digne d'approbation, soit continuellement l'objet de vos pensées. Donc tous les jours, je neutralise mes pensées. Et je ne permets à aucune sale pensée de prendre racine dans mon homme intérieur. Sachant que si j'ai perdu la bataille de mes pensées, j'ai perdu la bataille de ma destinée. Alors, je ne cerne pas mes pensées. Quand Dieu m'a montré que la majorité des choses qu'il faisait pour ma vie n'étaient pas celles que je demandais, mais celles pour lesquelles j'avais focalisé mes pensées pendant longtemps, j'ai commencé à faire attention à mes pensées. Je vous dis très sincèrement, ma femme est à témoin, juste à côté, j'ai rarement demandé l'argent à Dieu. Je ne sais pas combien de mois j'ai prié pour demander l'argent. Rarement. Je dis bien rarement demandé. Quand je dis je demande l'argent pour le peuple de Dieu. Je dis Dieu bénit ce peuple. Qu'il entre en possession de richesse. Qu'il prospère. Qu'il voit que la parole de Dieu marche. C'est ma prière. C'est jamais, oh Dieu, oui, s'il te plaît, donne-moi. Non, j'ai perdu la conscience du manque depuis très longtemps. Même avant d'avoir l'argent, j'avais déjà perdu la conscience du manque. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre. Et j'ai vu Dieu, à des moments où j'ai pensé à des choses, sans jamais demander, m'envoyer ces choses. Je me rappelle quand j'ai eu ma première Porsche. Vous serez étonné si je vous donne le témoignage. À quel prix Dieu me l'a donné? On me l'a amené à ma porte, devant ma maison. J'ai refusé, la personne a insisté en disant, achète cette voiture. Quand Dieu m'a dit, tu y pensais avant. Je suis venu te donner ce que ton cœur désire. Quand un homme aime une femme, ou quand une femme aime un homme, on va pas, on ne donne pas en présent, on va à la satisfaction de la pensée. Donc, ce n'est pas, oui, j'ai trouvé un truc et puis je t'ai donné. Non, je vais à la quête de ce qui peut te faire le plus plaisir. Donc, quand ta relation d'amour est forte avec Dieu, il surpasse tes demandes. Il va puiser dans ton cœur les choses les plus secrètes qui peuvent t'épanouir et te faire plaisir. Il te le donne. Mais il te le donne uniquement quand il est sûr que cette chose ne va pas te séparer d'avec lui. Donc, l'absence de l'amour véritable de Dieu peut être le blocage de la manifestation de la provision du ciel. Parce que je ne l'aime pas assez, je suis privé de ses avoirs. Même dans la vie quotidienne, quand vous avez des gens loyaux autour de vous, vous n'hésitez pas de donner quoi que ce soit. Mais quand vous vous rendez compte que c'est des personnes qui ont la duplicité, ils freinent la provision que vous pouvez apporter dans leur vie. Parce que vous n'êtes pas convaincu de leur loyauté. Le vrai problème, c'est qu'on a très peu de personnes loyales. Très, très peu. Si simplement on pouvait savoir que la loyauté est une voie excellente et la loyauté opère par l'amour, être loyal. Il ne faut pas simplement être là pour profiter, faire tes calculs, tout ce que je vais tirer, je vais faire ça, je vais avoir ci. Ça, c'est la dimension de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand on connaît Dieu, on va dans un autre niveau. Car on sait qu'il y a un Dieu qui existe. D'accord? Donc c'est très important. Aimer Dieu de toutes ses pensées, de toutes ses pensées. Donc, c'est important. Et voici quelques indices pour clore ce message qui vont vous montrer que vous êtes vraiment en train de tomber amoureux de Dieu. Quelques indices qui démontrent que votre amour est en train de croître. Premièrement, vous aimez sa présence. Psaume 84, verset 11. Vous aimez sa présence. Vous aimez la présence de Dieu. Vous savez que je peux prendre ma Bible, assis dans mon bureau, 7 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, à lire la Bible, à étudier la parole, à chanter, à danser, sans voir le temps passer. Il n'y a pas autre chose qui est plus intéressant pour moi que rester dans sa présence. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous aimez sa présence. David dit, un jour dans ses parvis, n'est-ce pas? Vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Donc, il comprenait que la présence de Dieu était une clé indispensable. Il aimait sa présence. Il n'a pas dit qu'il aimait l'argent de Dieu, mais il aimait Dieu lui-même. On peut aimer l'argent de Dieu sans aimer Dieu. Demandez à une femme, elle peut aimer l'argent d'un homme sans aimer l'homme. C'est vrai ou c'est faux? C'est trop clair. C'est pour ça qu'en fait, que souvent c'est pas mal hein, d'être dans une situation de galère, parce que la galère fait quand même qu'on se rend, tu peux quand même voir si c'est vraiment ta personne. Mais c'est aussi vrai que, bon, une personne qui n'a rien du tout fait que même ta personne n'est pas visible. Donc, il y a un équilibre un peu subtil à trouver. Bon, allez-y, faites vos équations mathématiques et puis retrouvez-vous. Amen. C'est un peu complexe ces choses-là. Parce qu'on aime quand même toujours pour quelque chose. D'accord? Donc, autant avoir quelque chose, mais il faut avoir quand même aussi, il faut tester pour voir. D'accord? Il faut tester pour voir. Je peux vous donner des techniques, vous les hommes. En réunion des hommes, vous donne des techniques pour voir, pour éprouver, pour voir si, par exemple, votre femme vous aime vraiment. Première technique, si vous êtes trop riche, déclarez un jour que vous avez tout perdu. Vendez vos voitures et marchez à pied pendant un mois. Commencez à voir si votre femme est toujours attachée comme avant. Amen. Et là, vous allez vous rendre compte que si oui ou non, c'est la même chose. Ma femme a passé ce test. Est-ce de quoi je parle? Donc, continuons. Donc, voyez, vous aimez la présence de Dieu. Vous aimez Dieu. D'accord? Vous aimez Dieu. Donc, vous êtes comme dans Somme 1. La Bible, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'accord? Parce que la présence de Dieu, c'est comme de l'eau. Ça rafraîchit, ça donne la vie. Vous voyez, ça crée la productivité. Il n'y a pas de sécheresse quand sa présence est là. Voyez, même le ministère que vous rendez, si vous n'avez pas sa présence, vous n'êtes pas fertile. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Vous êtes assis, certains d'entre vous ici depuis 7 ans. Vous m'écoutez, d'autres d'entre vous depuis 10 ans. Mais chaque jour, vous courez pour vous asseoir. Pourquoi? Parce que je reste planté près d'un courant d'eau. D'accord? Chaque chose qui sort de moi vient de sa présence. Vous comprenez? Donc, la présence de Dieu est importante. Deuxième, vous aimez sa présence. Et parce que vous aimez sa présence, vous aimez aller à l'église. Vous aimez l'église. Parce que je vais vous dire une chose. Hein, quand vous aimez Dieu, vous aimez venir à l'église. Vous allez vous rendre compte que ceux qui aiment Dieu sont fréquents aux réunions, pas à la réunion du dimanche. Vous aimez Dieu. Ensuite, vous aimez sa parole. Vous ouvrez les portions de l'Écriture chaque jour. Vous lisez la Bible. Prenez l'habitude d'ouvrir la Bible une fois par jour au moins. Lisez ce qui est écrit. Vous aimez la compagnie des saints. Oh là 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 là. J'ai rarement eu de bons amis. Ah, mais il y en a de rares. Des personnes avec qui, quand tu restes, vous parlez de la parole, vous discutez la Bible. Ça devient de plus en plus rare. Pasteur Théonès, à notre époque, là, quand nous grandissions, c'était des choses courantes, où les gens se rencontrent. Tiens, Lucas, ce matin, tu as médité de quoi? Hein? Ce n'est pas vous rencontrer, Dieu, tu as entendu ce qui se passe dans la vie. Non, ce n'est pas ça. Discutez des Écritures. Ayez des amis saints. Ayez une sainte compagnie. Lisez le Somme 1. Ne prenez pas pour amis n'importe qui. Non, ayez des personnes saintes pour amis. Et puis ensuite, vous aimez parler de Dieu aux autres. Par exemple, quand une femme est fiancée à un gars important, oulala, toutes ses amies vont savoir. Toutes les tantes, toutes les hommes vont dire, ah, c'est tel homme demande ma fille à marier. Même la mère est contente. Tout le monde veut voir quel est le gendre, le futur gendre, celui qui va épouser la fille. Pourquoi? Parce qu'on en est fier. Donc si tu es fier de Dieu, tu parles de lui. Si tu as peur de parler de Dieu aux gens de ton bureau, c'est que quelque part, tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu dois en parler. Radicalement. Parce que je vais vous dire une autre chose. La conviction avec laquelle vous parlez de Dieu va provoquer dans le cœur de ceux qui sont en face, n'est-ce pas, une conviction aussi pour venir vers votre Dieu. Vous voyez, donc il faut être déterminé. Parlez de lui avec passion. Vous aimez donner à Dieu. Ça aussi, c'est un point. J'aime donner. Quand j'aime sa présence, je donne sans problème. Je n'hésite pas quand il faut donner. Je donne. J'aime donner. Donner, c'est mon style de vie. Quand on est dans le royaume, on donne. Celui qui aime, donne. Dieu a tant aimé qu'il donne. Celui qui n'aime pas donner, prouve qu'il n'est pas amoureux. Quand on est amoureux, on donne. Et souvent, les cadeaux cessent à la maison parce qu'il n'y a plus d'amour. Et souvent, le cadeau exprime la qualité de l'amour qu'on ressent. Ah ouais, sérieusement. Donc, quand on aime, on donne le meilleur. Vous savez, je vous dis une chose, on donne le meilleur. Femme, donnez le meilleur à vos maris. Marie, donnez le meilleur à votre femme. Vous voyez, c'est... Et même les assistants, donnez le meilleur. Donnez-moi le meilleur. Hein? Et moi, j'ai obligation de vous donner le meilleur. C'est une relation d'amour. Vous comprenez? Quand vous venez dans cette église, vous êtes frappé par une chose. Il y a l'amour. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas, tel veut prendre la place. Non, on ne connaît pas ça ici. C'est le royaume des cieux. C'est l'amour, les uns envers les autres, soudés. Parce qu'on sait que tel a quelque chose qu'on n'a pas. Il n'y a pas de compétition. Celui qui amène la compétition ne fait jamais partie de mon staff. Jamais. Parce que j'estime que c'est le diable qui aime la compétition. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose de spécifique et d'unique. Et quand on se met ensemble, la beauté du royaume se fait voir. Il n'y a pas de compétition. Celui qui aime Dieu, aime sa présence, aime servir dans sa maison. Faites quelque chose à l'église. Même si c'est simplement faire asseoir les gens, faites quelque chose dans le royaume des cieux. Ensuite, vous regrettez vos mauvaises actions. Quand tu aimes Dieu et que tu fais le mal, tu regrettes. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis tu planifies le mal contre ton frère. Ce n'est pas normal. Tu vois comment est-ce que vous allez le frapper, vous faites des coups au derrière, faites telle technique pour ton frère. Non, pour ta soeur, non. Quand on aime vraiment, on ne fait pas ça. D'accord? Et même quand on a fait du mal, on regrette. On demande pardon. Le fils prodigue s'est rendu compte qu'il a mal fait, il est revenu vers son père. D'accord? On regrette les actions. Certaines personnes ne voient pas Dieu parce qu'ils n'ont pas regretté. Il faut d'abord regretter et te détourner. Ensuite, Dieu revient vers toi. Vous voyez? Mais quand tu ne regrettes pas et que tu ne fais plus, c'est un problème. Il faut regretter la mauvaise action que j'ai posée à l'égard de mon semblable ou à l'égard de Dieu. Ensuite, je continue. Vous devez avoir aussi de la compassion pour vos semblables. La compassion. Allez au-delà de Yako, pardon, Asia, non, allez au-delà. La compassion te pousse à l'action pour faire quelque chose par rapport à ton semblable. Le vrai problème de la francophonie, j'en parlerai là, le message suivant, c'est l'absence de compassion dans l'évangile. On est dans les rivalités, les problèmes de Caïn à Abel. Caïn tue son frère Abel. Ça, laissons ça de côté et allons dans la dimension excellente. Marchons dans l'amour, ayons la compassion les uns pour les autres. Vous me comprenez? C'est ça qui va faire la différence entre nous et les gens du monde. La vraie compassion. Tu vois, pourquoi tu tues ton frère? Parce qu'il a commis une faute. Si Dieu montrait tes fautes sur l'écran géant, tu n'allais pas tenir, tu n'allais pas tenir. Parce que certains d'entre nous, on continue d'avoir le crédit des gens parce que Dieu nous couvre. Et n'oublie jamais que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, faire de même à autrui. À force d'accuser les autres, Dieu va t'exposer de façon lamentable. Donc, fais très attention. Donc, il faut aimer sa présence, la présence de Dieu. Quand tu aimes sa présence, tu es entouré de son amour. Comme un voile qui est là, qui t'entoure. Deux, il faut, vous voyez, tu aimes sa présence, c'est un indice, d'accord, c'est important. Et tu aimes obéir à Dieu. Aimer obéir à Dieu. Jacques 14, verset 21 à 24. J'aime obéir à Dieu. D'accord? Et ensuite, 1 Jean 2, verset 15. Aimer obéir à Dieu. S'il manque dans vos cœurs l'envie de lui obéir, alors il n'y a pas d'amour pour Dieu. Quand l'amour de Dieu est dans vos cœurs, vous aimez obéir à Dieu. La Bible dit que si j'aime Dieu, je garde ses commandements. Donc ça veut dire qu'il m'a donné la capacité d'en garder. Mais je dois faire le choix de garder ses commandements parce que je l'aime. D'accord? C'est très important. Et nous savons bien que garder ses commandements, 1 Jean 2, verset 15, nous conduit à aimer nos semblables. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu quand je n'aime pas les gens que je vois autour. Aimez votre prochain, aimez les gens tout autour. D'accord? Vous avez déjà vu, moi j'ai beaucoup voyagé. Vous avez vu des églises où les gens arrivent et puis ils s'écrasent entre eux. Quand l'autre arrive à l'église, chacun veut montrer qu'il est, vous voyez. Il y a des démarches. Quand vous voyez même la soeur marcher, vous vous rendez compte que la chair a pris l'emprise. Même la démarche, même la chair est remplie derrière. Vous voyez, il n'y a rien de l'esprit, il n'y a pas de vie. On ne dégage pas l'amour, on ne dégage pas l'envie d'embrasser les autres, de rendre les autres meilleurs. Mais on se met de côté, on cherche à être la seule personne distinguée au milieu des autres. Ça, c'est l'absence d'amour. L'amour nous empêche à embrasser les autres, à serrer les autres. Même s'il a une mauvaise odeur, je sers sa mauvaise odeur, je contamine avec ma bonne odeur. Comme ça, la prochaine fois, il a appris quelque chose. Vous savez que quand vous avez grandi dans la pauvreté comme moi, avoir l'argent n'est pas tout. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne savez pas ce qu'il faut en faire dans votre chambre? Comment est-ce qu'il faut faire pour mettre un divan? Comment est-ce qu'il faut faire pour mettre un matelas? Parce que si on vous donne l'argent, vous savez même pas, vous n'avez pas été exposé à la gloire. Vous comprenez? Donc vous, que Dieu a déjà mis à un certain niveau, exposez les autres à ces choses. Et dites à ces personnes, tu peux y arriver. D'accord? Donnez la main d'association aux autres. Croyez le meilleur. Votre vie n'aura jamais été d'une grande utilité si elle n'a pas impacté quelqu'un vers le haut. Je vais plus loin. Quand je parle d'élévation, l'élévation, c'est tout ce que Dieu fait pour te rapprocher davantage de lui. Donc quand on dit Dieu m'a élevé, il est devenu directeur et puis ça fait un mois que tu ne vois pas à l'église, en fait tu as été rabaissé. Parce que chaque fois que Dieu t'élève, ça te fait monter davantage proche de lui. Tu montes, tu es plus proche, c'est ça l'élévation. Tu montes, tu es davantage proche. Le caractère de Dieu, c'est là. Tu deviens davantage comme Dieu. Là, Dieu t'a élevé. Mais tout ce qui te donne des petites pompes et qui donne à ta chair de devenir une chair rebelle dans une ventalise incroyable, tu es dans le rabaissement. Et aujourd'hui, on confond tout dans l'église. On m'a parlé d'un pasteur qui envoyait chicoter les autres pasteurs à 2h du matin. Qui envoie des gens dans la maison. Et puis tu dis, Dieu m'a élevé. Qu'il n'y a pas d'élévation hors des voies du Seigneur. L'élévation t'amène à avoir le cœur de Dieu. Je parlerai de ça quand je parlerai de l'intrigue de l'amour. Quand l'amour de Dieu a embrasé ton cœur au point où ta vie devient intrigante. Oh, tu n'es plus normal. Pour le monde, tu deviens un défi. Une référence pour l'Église. Une fierté pour le royaume. Un sujet de vantardise pour Dieu. Comme ce fut le cas des gens. Je parle de l'intrigue de l'amour. Or, certains d'entre nous, on a besoin de toucher Dieu. Vous voyez? Et vous allez, je vais terminer en disant ceci. Suivez-moi bien. Le diable est après l'amour que tu as ressenti pour Dieu quand tu t'es converti. Dieu dit dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où est passé l'amour que tu avais pour Dieu? Où est passé cet amour? Toi qui l'aimais tant. Tu as laissé tomber. Tu viens maintenant à l'église comme avant. Ton cœur n'est plus joyeux. Tu n'as plus de paix. Tu ne marches plus avec Dieu comme avant. Où est passé ton premier amour? Où est passé cet amour? Et donc, vous devez comprendre que quand vous l'aimez, Dieu vous embarrasse. Il vous comble, il vous bénit, il vous épanouit. Rappelez-vous, Salomon n'a jamais prié pour avoir l'argent. Et je dis ça tout le temps. Les gens qui prient tous les jours parce qu'ils veulent l'argent, alors qu'ils doivent chercher Dieu, ils passent à côté de ce que le ciel a pour eux. Salomon a cherché la justice. Il a voulu faire la volonté de Dieu. Et Dieu lui a dit, puisque c'est ce que tu recherches, et que tu recherches rien pour toi-même, mais tu veux faire ma volonté en servant ce peuple, alors je te bénirai de façon incroyable. Quand je suis venu à l'évangile, je ne croyais pas qu'un prédicateur peut rouler en Porsche. Si tu m'avais dit, j'aurais pris autorité contre l'esprit de distraction. Dieu a dû me rendre visite et me parler sérieusement et sévèrement sur ça en me disant, c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Pour que dans la francophonie, la mentalité la change et que les enfants de Dieu se rendent compte que je peux bénir et on continue de m'aimer. Mais au départ, ce n'était pas ce qui était la motivation. Vous voyez? Donc, faites attention. Le diable viendra de trois façons. Premièrement, par la chair. Matthieu 26, verset 41, la Bible dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Fais attention à ta chair. » Dis à ton voisin, « Attention à ta chair. » Alors, dis-lui, ton ennemi est à l'intérieur de toi-même. Fais attention à ta chair. Vous voyez? La Bible dit, « L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Une dualité intérieure, un combat en nous-mêmes. Ce n'est pas le diable, c'est d'abord à l'intérieur. Donc le diable va aiguillonner notre chair, manipuler notre chair pour nous amener à l'erreur. Mais nous pouvons maîtriser la chair. Comment? Par la prière. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc la tentation viendra de ta chair. Vous voyez? Il dit, veille, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire qu'en fait, quand le tentateur vient, il s'attaque à ta chair, ton ancienne nature. C'est là qu'il s'attaque. Le diable connaît trop bien ce que tu aimes. Il t'a étudié, il sait. Qu'est-ce qu'il peut mettre devant toi et puis tu disjonctes. Donc il n'y a que la prière pour t'aider. Donc prier est important pour faire la volonté de Dieu. Si vous prenez un animal, vous le mettez sur l'autel, vous mettez le feu en bas, il va rester ou il va fuir. Il va rester ou il va fuir. Car la Bible dit d'offrir son corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de la consécration. Il faut que vous soyez attachés. Si vous n'êtes pas attaché, vous fuyez. Et qu'est-ce qui vous attache sur l'autel? C'est la prière. La prière, ce sont les cordes qui vous retiennent sur l'autel du sacrifice. Si vous ne priez pas, c'est impossible. C'est pour ça que quand Jésus, sachant ce qui arrivait, a amené ses disciples à Gethsemane, il a amené Pierre. Tu me suis, pasteur? Il a amené Pierre avec lui. Il dit, prions. L'heure est mauvaise. À Gethsemane, il prie. Il parle. Quelques 15 minutes après, il se tourne, Pierre dort. Il réveille, il dit, les gars, priez. Pierre dort. Après, il lui dit, écoute, avant que le corps ne soit déchanté, tu m'auras déjà régné. Trois fois. Pierre dit, oh non. Ça, il parlait. Mais il, là où il devait vaincre, il était en train de dormir. S'il avait prié à Gethsemane, il n'aurait pas régné. Mais comme il n'a pas prié, il a échoué le test et il a raté. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. S'il avait prié, il n'aurait pas régné. Donc, il y a des moments où la prière, vous devez comprendre que la prière est importante. Donc, la prière, ce n'est pas simplement pour me protéger contre le diable, mais c'est pour me garder dans la volonté parfaite de Dieu. Prier pour ne pas donner accès à la tentation. D'accord? C'est important. Ensuite, la convoitise des yeux. Donc, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les yeux. Fais attention à tes yeux. La publicité, ce que tu vois, tout ce qu'il y a dans ton jardin, dans ton bureau, tout autour, fais attention, les yeux. Ecclésiaste 2, verset 10, tout ce que mes yeux ont désiré, je ne les ai point privés. Ça, c'est qui parle là, ici, Salomon. Il dit, ce n'est pas privé. Ça ne m'étonne pas qu'il ait eu 1000 concubines. Parce que si tout ce que tes yeux désirent, tu prends, tu peux être surpris de nombre de femmes que tu auras. Il dit, je n'ai pas refusé à mon cœur aucune joie. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la joie du cœur commence par le regard. Vous êtes là? Et il dit, je n'ai privé à mon cœur aucune joie. Donc, la joie du cœur commence par le regard. Car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est là la part qui m'est revenue. Donc, si la part qui te revient, c'est sur la terre, c'est dangereux. Et il y a une meilleure part pour toi au ciel. Fais attention à ton regard. Tu es là sur ton ordinateur seul et puis paf, je ne sais pas comment le diable s'arrange. Pouf, il y a une image qui arrive quand tu ouvres ton ordinateur. Et puis voilà, c'est une déesse. Et souvent, elle est dans des formes incroyables. Et puis, tu es là, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Et puis, Jésus te dit, je suis là, mon gars, je suis là. Et il dit, zap cette image. Il dit, Seigneur, une minute. Et tu t'attends sur l'image, tu commences à voir les détails. Hein, tu regardes les ongles, tu regardes les cheveux. Tu t'attends. Et vous savez, et quand on prie pour les gens, après, ils te disent, non, ça a commencé par cette image. Dans le diable, commence par des choses subtiles. Il y a souvent, vous êtes dans la voiture avec quelqu'un, et puis paf, vous êtes là, vous ne savez pas, le rétroviseur est par là, mais après sa tête fait ça. Vous êtes en train de partir, quand tu te tournes pour voir, il a été scotché quelque part. La tête s'est retournée au point où il peut même te dire, arrête-toi juste pour regarder. À un certain moment, tu dis à tes yeux, stop. On est tous sanctifiés, même le regard. Tu dis, hé, mes yeux, tu te regardes en face. Tu ne te détournes ni à gauche, ni à droite. Tu vas dans une boutique, tu trouves beaucoup de chemises, tu choisis une. Des chaussures, tu prends ce qu'il faut. Sinon, si tu commences à voir tout ce qui est beau, tu achèteras toute la boutique. Discipline ton regard. Le regard, il faut discipliner. Et ensuite, l'orgueil de la vie. Faites attention, n'empruntez pas les voies qui ne sont pas celles du Seigneur. Quand on parle d'orgueil, c'est le refus de s'identifier à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. L'orgueil de la vie, c'est ça. Je veux devenir un footballeur, alors que Dieu veut que tu sois peintre. Ou Dieu veut que tu fasses-t-il. Mais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Par orgueil ou par soumission à Dieu? Il faut tout faire pour la volonté parfaite de Dieu et non pour un orgueil personnel. Je prie de tout mon cœur que cette parole trouve une place de choix dans ton cœur et que par ce message, le Seigneur te donne de retomber ou de tomber amoureux de lui pour la première fois, que tu puisses l'aimer de façon indescriptible et que ta vie témoigne d'un grand amour que tu éprouves pour lui. Le matin comme le soir, que les cantiques se fassent entendre au bord de tes lèvres. Parce que ton cœur aura ressenti quelque chose que tu n'as jamais ressenti avant. Un sentiment de joie intense, de paix, un sentiment d'un bonheur indescriptible que seul l'amour est capable de créer dans ton cœur. Oui, que le Seigneur crée dans ta vie, afin que quand on lève la main dans la présence pour l'adorer, que ce soit quelque chose de vrai. Que ce ne soit pas simplement un rituel, mais que ce soit une rencontre avec le Très-Haut. Alors tu pourras chanter « Alléluia, Alléluia au Seigneur, parce qu'il est merveilleux. » Ah oui, ah oui, élève ta voix vers le trône de l'Éternel. Oh, il est tout puissant. Ah, élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Alléluia. Ah, je bénis ton nom, Seigneur.